Délibération sur le transfert de la compétence organisation de la mobilité à la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron. Je donne la parole à Stéphanie. Autrement, il y a le régime. Le celui-là, il est assez long. Tiens, Steph.
Allô?
Ah, voilà. Désolée. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-17 et L5211-5, vu la loi numéro 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 8 tel que modifié par l'ordonnance numéro 2020-391 du 1er avril 2020, vu la délibération numéro 2021-45 en date du 23 mars 2021 du Conseil de la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron relative à la prise de compétence autorité organisatrice des mobilités. Le Conseil, après en avoir délibéré, décide d'émettre un avis défavorable à la procédure de transfert de la compétence organisation de la mobilité à la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron. Alors, suite à ce sujet, donc ça a été débattu en bureau communautaire, ça a été débattu en conseil communautaire. Nous nous étions abstenus. Depuis, nous avons eu encore des éléments supplémentaires, mais j'aimerais quand même reprendre l'intervention qui a été faite en conseil communautaire pour que tout le monde soit au fait de ce qui s'est dit, les échanges qui ont eu lieu. Donc tout d'abord, j'avais remercié donc le travail effectué par notre collègue Philippe Bougnard, qui est vice-président, sur le transport et la mobilité au niveau de l'intercommunalité. Il nous avait présenté un diagnostic le 21 juillet 2020, qui était très complet et qui a permis de bien cerner les forces et les faiblesses en matière de mobilité sur toute l'intercommunalité. Et il avait apporté des pistes de réflexion très intéressantes. Il est ressorti clairement que les besoins et les freins des communes rurales ne sont pas les mêmes que ceux de nos villes, en termes de mobilité, bien sûr. Je me suis exprimée en disant que je pensais, comme nous tous, que la question de la mobilité ne se pose pas de la même façon à Saint-Bauzille ou à Saint-Pierre-la-Roche qu'à Cruas et Auteuil. Donc les freins ne sont pas les mêmes et les solutions à trouver non plus. L'étude qui nous a été faite a rappelé en conclusion qu'il était important d'évaluer le coût de transfert de la compétence pour le territoire avant de prendre une décision irréversible. Si l'intercommunalité prend cette compétence, nous ne pourrons pas revenir en arrière. Et actuellement, nous n'avons aucun coût d'évaluer sur ce transfert de compétences. Comme nous avons eu l'occasion d'en débattre, bon, ça c'était au moment du bureau communautaire et en conférence des maires, Il me semble aujourd'hui, alors ça je m'exprimais lors du conseil communautaire, important de partager avec vous nos inquiétudes et de la même façon aujourd'hui. C'était dans la même période que sur les échanges du budget. Donc j'ai interpellé le président de l'intercommunalité Yves Boyer. Yves Boyer nous a alerté sur la faiblesse de notre fonds de roulement et de la nécessité de travailler à l'optimisation des dépenses de fonctionnement, mais surtout créer de nouvelles recettes fiscales. Donc, dès 2022, nous allons être face à des choix financiers difficiles avec une augmentation de la fiscalité intercommunale. Aussi, je pense qu'il est légitime de se poser collectivement la question suivante. Est-ce le bon moment pour que notre communauté de communes prennent aujourd'hui cette compétence mobilité, alors que de gros chantiers vont impacter nos finances, tels que la prise de compétence enseignement musical, la compétence de l'eau, l'assainissement, le PLUI, les mercredis et d'autres compétences qui vont suivre. Alors,
qu'il est envisagé la mise en place d'une TOM. Actuellement, vous savez qu'on ne paie pas de taxes d'ordures ménagères. Donc, ils envisagent la mise en place d'une TOM pour répondre au coût de plus en plus élevé des ordures ménagères. Environ 650 000 euros en 2021. Et l'augmentation du taux du foncier bâti de 10% dès 2022. Alors que nous sommes dans un contexte économique de crise sanitaire, encore aujourd'hui, et que nous sommes tous très fortement impactés, les citoyens, les acteurs économiques et les collectivités. Alors que nous ne connaissons pas le coût de cette nouvelle compétence sur l'intercommunalité, mais aussi sur chacune de nos communes, parce que les communes vont payer aussi, hein, en parallèle. Alors ça, c'est des éléments que j'ai pu récolter, les derniers retours donc, que j'ai eus au niveau du département de l'Ardèche, sur 12 intercommunalités concernées par cette compétence, 11 ont refusé de prendre cette compétence. Donc il n'en reste plus qu'une, c'est l'ARC. Sur la région, sur 105 intercommunalités, 90 n'ont pas pris la compétence. Donc ça veut dire que seulement sur 105, 15 l'ont prise. J'ai également abordé ces questions avec les élus municipaux. Bon, de la majorité, nous étions en réunion, tous amenés à nous exprimer sur cette prise de compétence. Nous avons fait la démarche de nous rapprocher des intercommunalités communes, comme je viens de vous le dire, pour avoir quand même des retours. Parce qu'en fait, dans le débat, notamment sur cette compétence mobilité, il y a eu quand même beaucoup d'échanges qui concernaient en priorité le bassin sur la vallée du Rhône, notamment sur le sujet du Montélibus et de venir jusqu'à la centrale nucléaire. Donc on va dire que c'est un secteur très restreint en termes de projets. Alors il y a d'autres projets dans le rapport, mais notamment c'est celui-ci qui a amené pas mal de débats. Il ressort notamment que le Code des transports a prévu que nous pourrions prendre cette compétence quand nous le jugerons utile et quand nous serons prêts, dans le cadre d'un syndicat mixte de mobilité. J'avais pris le cas de Guillaume Grange, qui n'a pas pris la compétence mobilité, mais qui a adhéré au syndicat de la Drôme pour avoir des échanges en termes de transport collectif. Donc c'est pas incompatible, même si on ne prend pas cette compétence-là, on a des possibilités de projet et de travailler notamment avec la Drôme, si c'est un des projets qui nous tient à cœur. Donc, nous avons clairement affirmé lors de ce conseil communautaire qu'il était trop tôt pour prendre une telle décision, et on vous réitère nos arguments, tant que nous n'aurons pas une évaluation financière précise et que nous ne connaîtrons pas l'impact de cette prise de compétence sur notre budget communautaire et municipal. Pour être tout à fait clair, nous sommes pour l'amélioration de la mobilité sur notre territoire. Il y a des projets, hein, les voies douces, le train. Il y a bon, tout ce qui est mobilité aussi par rapport aux communes rurales. Mais si ce soir nous prenons la décision de voter contre, c'est que nous demandons d'être prudents et de prendre le temps de réflexion nécessaire puisque la loi nous l'autorise. Voilà ce que je vous propose, c'est de voter contre cette délibération. Philippe, j'ai vu que tu prenais le micro.
Oui, j'attends qu'il démarre. Bien, donc, on a entendu ton exposé, et c'est une très sage décision que vous avez prise là. On s'en félicite, on vous félicite. Effectivement, il va y avoir beaucoup de changements au niveau de la Comcom, y compris sur les compensations aux communes. Et il est temps pour la communauté de communes de se poser et de pas se précipiter sur tous ces transferts de compétences. T'as pas parlé de la restauration scolaire, mais il y a aussi ça. Donc ça va commencer un petit peu à bouchonner et effectivement les finances de la communauté de communes sont pas au beau fixe. Donc c'est une très sage décision. De plus, comme tu l'as dit, effectivement, la mobilité en Vallée du Rhône, c'est pas la mobilité à Saint-Pierre-la-Roche ou à Saint-Martin sur la Vaison. Donc, on va vous suivre complètement sur cette décision.
Tout à fait. Je voulais rajouter un élément. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais rajouter. Donc, je vais appeler au vote. Non, ça me reviendra.
Juste, pourquoi vous êtes abstenu en conseil communautaire et pas voté contre?
Tu fais bien de le préciser. En fait, le débat s'est fait très rapidement. On n'avait pas tous les éléments parce que la majorité des intercommunalités n'avaient pas voté. Si tu veux, moi j'étais, c'est vrai que j'ai pris le temps, hein, j'ai pas simplement appelé la communauté de communes du Nord, mais j'en ai appelé, contacté d'autres. Mais en fait, j'avais pas encore assez de recul pour vous annoncer ces chiffres-là, je ne les avais pas. Donc on a pris l'initiative de s'abstenir, on en avait discuté, c'est vrai, avec la majorité des élus. Par contre, très clairement, quand les arguments et les éléments nous sont parvenus par la suite, on a dit très clairement qu'on voterait contre. Je crois qu'il y avait eu 7 votes, si je me souviens bien, au total, qui soit se sont abstenus ou votaient contre au niveau de l'intercommunalité. Trop peu à mon goût, à mon avis. Ah oui, c'est ça, Philippe, je voulais reprendre. En effet, tu as bien fait de parler des problématiques des AC. Je pense, en effet, que l'année 2022 va être une année très compliquée pour l'intercommunalité sur beaucoup de sujets. Alors, pour ce qui est de la restauration scolaire, la compétence, on l'a. Sauf qu'on va l'étendre sur l'intercommunalité, donc au sud de l'intercommunalité, puisque quand il y a eu la fusion, on n'a pas pu intégrer dans l'organisation qui était faite sur Barès-Coiron tout le secteur sud, donc le Teil et les autres communes. Là aussi, tu as raison de mettre le doigt dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes et des agents intercommunaux qui attendent des avancées réelles, parce que déjà, ils sont saturés hein, en termes de restauration collective. Et oui, il va y avoir des débats, on va dire, assez compliqués dans les mois et années à venir. Voilà, on essaiera de se tenir au courant pour ceux qui sont représentatifs. C'était 7 abstentions et un vote contre, exactement.
Pour que ça passe, il faut que toutes les communes votent pour. S'il y en a une qui vote contre, ça...
Non, il faudrait qu'on soit... j'ai pas exactement... C'est la majorité. Hein. Là, je sais pas, j'ai pas suivi qui avait. Je sais que Maïs a voté contre. Sur cette délibération ? Tu parles sur les communes actuellement. Moi, j'ai eu que le retour seulement sur Maïs, parce que ça s'est fait il y a pas très longtemps. Après, sur les autres communes, j'ai pas eu de retour encore. Il faudrait que je demande un bureau communautaire. Donc, j'appelle au vote. Donc, qui est contre ? Enfin, qui est... Oui, pardon. Qui est contre, excusez-moi. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Voilà. Et qui est pour ? Voilà. Voilà. Donc, on a tous un avis défavorable. Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Sans bruit, du coup. Délibération sur le règlement précisant les modalités d'intervention et d'attribution des aides au ravalement de façade délivrées par la commune de Cruas, OPAH RU 2020-2025. Et je laisse la parole à Mathieu.
Bonsoir. Donc, vu la délibération du conseil municipal en date du 10 septembre 2020, qui approuve la nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, 2020-2025. Donc c'est l'OPAH-RU. Il est rappelé que pour les aides aux particuliers, le budget de l'ANA pour l'ensemble de l'opération est d'environ 8,5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les aides Action Logement et Procivis. Le montant de l'enveloppe de la commune de Cruas à l'opération est de 32 500 euros sur 5 ans. Cette aide permettra de participer au financement de 13 immeubles dans le cadre de l'opération Façade. Ce sont des aides qui sont de 20% du montant hors taxe, plafonné à 2500 euros pour des façades inférieures à 100 m² et plafonné à 5000 euros pour des façades supérieures à 100 m². Pour préciser les modalités d'intervention et d'attribution des aides au rafalement de façades délivrées par la commune de Cruas, dans le cadre d'aujourd'hui pour l'habitat, l'OPAH-RU de Ardèche-Rhône-Coiron 2020-2025, porté par la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron et animé par Solia, un règlement est élaboré. Toute l'ambition de ce règlement d'aide est de valoriser le quartier du centre-ville en affirmant son identité et son attractivité pour lui permettre de conserver son rayonnement à l'échelle de la commune. Pour ce faire, la commune de Cruas souhaite abonder les aides existantes en matière d'amélioration de l'habitat dans le cadre d'aujourd'hui pour l'habitat en ciblant les travaux de rafalement de façade. Les objectifs de ce règlement sont donc multiples. Valoriser le patrimoine collectif et redonner son image au quartier historique de la ville. Redynamiser et mettre en valeur le quartier du centre-ville, lui rendre sa vocation de centre de quartier historique. Maintenir, protéger le patrimoine de la dégradation due aux éléments et au temps. Faire participer les riverains à cette politique en leur indiquant la valeur de leur patrimoine historique, en les informant de l'urgence de réaliser des travaux afin de préserver ce patrimoine qui serait en péril. Rencontrer, dialoguer et conseiller également les différents riverains. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de règlement d'aide financière de la commune de Cruas pour l'OPAHRU 2020-2025 s'y annexer. Donne pouvoir à Madame le maire pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et précise que les crédits relatifs aux aides de l'amélioration de l'habitat, opération façade, sont inscrits au budget. Donc, j'ai pas eu de retour.
Permanences, elles ont lieu le...
Le mercredi, une fois par mois.
Oui, je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième. On le met sur le magazine, mais je ne me rappelle plus si c'est le deuxième. Je crois que c'est le deuxième. On est en train de regarder. On a quand même beaucoup de... Enfin, Solilla reçoit assez régulièrement des gens intéressés par le dispositif. Les 13 immeubles avaient été identifiés initialement avec Solilla. Donc voilà, ça peut évoluer dans le temps, mais en tout cas, c'est ce qui avait été identifié dans le dispositif. S'il n'y a pas de questions particulières, oui.
Il y a bien un périmètre. On a le plan sur le dossier. Voilà, c'est vraiment le centre-ville, la rue principale. Voilà.
Donc j'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération sur la garderie périscolaire. Règlement et tarifs applicables à compter de septembre 2021. Je laisse la parole à Émilie.
Bonsoir à tous. Depuis de nombreuses années, un service de garderie des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Cruas est assuré par la collectivité matin et soir, pendant les périodes scolaires et uniquement le matin, et pendant les vacances scolaires. Ce service est placé sous la responsabilité du maire. Considérant la nécessité de définir un règlement intérieur pour encadrer le service municipal de garderie périscolaire, Madame l'adjointe au maire, en charge des affaires scolaires et périscolaires, explique les grandes lignes du règlement intérieur proposé pour l'encadrement de la garderie périscolaire pour l'année scolaire 2021-2022. Des règles communes de comportement pour les enfants, des règles d'inscription et de communication avec la mairie, des règles de fonctionnement général du service, des tarifs, des indications sur les moyens et modalités de paiement. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement intérieur de la garderie périscolaire pour l'année 2021-2022, annexé à la présente délibération.
Merci Émilie. Le règlement a été joint, c'est ça? Parce que je ne l'ai pas eu dans ma pochette. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières?
Oui, il y a des questions. Je trouve, pour une personne qui va fréquenter régulièrement la garderie, cela fait une sérieuse augmentation quand même.
Alors, on a fait un tableau comparatif, justement, pour... nous, déjà, le but, on voulait vraiment des modalités d'inscription différentes.
Oui, mais on a une augmentation à peu près de plus de 40% pour quelqu'un qui fréquente. Ah, si.
Non.
Si.
Mais si vous voulez, je vous présenterai mes tableaux. Mais vous avez compté les périodes scolaires et les périodes vacances?
J'ai pris le mois de septembre, 21 jours. Quelqu'un qui fréquente tous les jours le centre, matin et soir. Faites la différence. Ça fait 0,75 multiplié par 21.
Oui. Alors.
Non, mais ça.
Si vous voulez, je vous présenterai mes modes de calcul.
Il payait 20 euros avant. Et à partir du mois de septembre, il sera à 35 euros ou 36 euros et des poussières.
Il faut voir sur l'année. Il faut voir sur l'année scolaire.
Si je parle de la personne qui fréquente tous les jours. Tous les jours, matin et soir. Celle qui va une fois de temps en temps, d'accord. Mais celui-là qui fréquente tous les jours, ça lui fait 40% d'augmentation.
Alors, je vous présenterai mes documents. J'ai fait justement...
Je, Je l'ai fait l'exemple.
Avec les jours réels.
Avec le jour
réel. Scolarisé, vacances.
21 jours au mois de septembre, j'ai fait le.
Mais on pourra comparer, il y a pas de souci.
Ah mais il y a pas de souci, hein. Mais ça fait plus de 40% d'augmentation pour quelqu'un qui fréquente tous les jours matin
Alors,
et soir.
Alors il faut voir sur l'année scolaire.
Moi j'ai pris la rentrée scolaire le mois de septembre.
Il faut voir sur l'année scolaire.
Faites-le, prenez le mois de septembre, mais 21 jours.
Je l'ai fait.
Multiplié par 0,75, multiplié par 1 euro. On était à 20 euros et maintenant on va
Oui, mais si on regarde sur le mois de septembre, il faut le faire sur l'année scolaire complète.
Je pense qu'on fera pareil.
Si... Non.
Ceux qui fréquentent la garderie en période scolaire, ils la fréquentent pendant les vacances.
Mais il faut savoir que la garderie, pendant les vacances, commence et de 7 à 8.
Oui.
La plupart des parents n'ont pas besoin de garderie pendant les vacances. On a fait des...
Non, si, on avait ouvert à 7 heures parce que c'était une demande des parents.
Oui, mais il y en a moins.
Je parle de quelqu'un qui fréquente matin et soir, ça lui fait 40% d'augmentation. Voilà, c'est
mais
tout.
On pourra
c'est pour cela, et c'est pour cela que je demande à mes collègues de voter contre.
Ah, ben, pas de souci. Mais par contre, je peux vous présenter mes éléments de calcul. Il n'y a pas de souci. Ok.
À l'inverse, si une personne met qu'une fois...
Celle-là, elle est avantagée. Voilà. Celle-là est avantagée.
On est d'accord.
Je suis d'accord avec
voilà.
toi. Mais celle-là qui profite tous les jours du service va payer 40% de plus.
Il y avait un juste milieu. Après, la moyenne, je... Voilà. Bon, il faudrait à ce moment-là présenter... Votre étude qui a été faite avec les services et
Moi,
Magda.
J'ai pris le voilà. mois de septembre, c'est tout.
Oui, non, mais j'ai bien compris. Très bien. J'appelle au vote qui est contre. Donc 5 votes contre. Qui s'abstient? Deux abstentions. Donc vote à la majorité. La majorité. Oui. Alors. Adhésion au groupement de commandes entre la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron et des communes membres pour les marchés d'assurance. Je donne la parole à Franck.
Madame le maire informe les membres du conseil municipal que la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron, dans le cadre de la démarche de mutualisation initiée entre l'intercommunalité et ses communes membres, a proposé de constituer un groupement de commandes pour les marchés d'assurance régis par les dispositions des articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande publique. Ce groupement de commandes a pour objet de permettre la passation et la signature d'un marché public de prestations d'assurance composé des contrats suivants. Assurance responsabilité civile, assurance protection fonctionnelle, assurance protection juridique, assurance flotte automobile, assurance dommages aux biens et risques annexes, assurance risque statutaire du personnel. Une convention constitutive de ce groupement définit les modalités de fonctionnement du groupement avec les communes volontaires. Ce groupement sera coordonné avec la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron. Les principales dispositions de cette convention de groupement de commandes sont annexées à la présente. Le conseil municipal en avoir délibéré approuve les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la passation des marchés d'assurance des membres volontaires, décide l'adhésion de la commune à ce groupement de commandes pour la passation des marchés d'assurance, charge Madame le maire de notifier la présente délibération au représentant légal du coordonnateur, autorise Madame le maire à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes, ainsi que toutes les pièces se rapportant à la consultation et au contrat d'assurance.
Vous avez compris que c'est une adhésion au groupement, donc nous attendons l'étude et nous espérons bien vous faire une présentation des économies qui seront possibles donc de faire par rapport à ce groupement de commandes au niveau des assurances. Est-ce qu'il y a des questions particulières? J'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Décision modificative numéro 2021-1 du budget général. Je laisse la parole à Bernard Reynaud.
Suite au dépôt du permis de construire numéro PC007-076-19-C0012, la direction départementale des finances publiques réclame le paiement de la somme de 2 482 € au titre de la taxe d'aménagement. Les crédits n'étant pas prévus au budget primitif 2021, il est donc nécessaire d'ajuster le budget pour une décision modificative. Il s'agit d'alimenter le compte 10226, taxe d'aménagement d'un montant de 2 490 € à partir du chapitre dépenses imprévues. Le tableau ci-après récapitule les ajustements. Compte budgétaire 10226, taxe d'aménagement 2 490 € et le compte 020, dépenses imprévues, moins de 2 490 €. Donc c'est équilibré. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la décision modificative numéro 1 du budget principal, telle que présentée ci-dessus.
Est-ce qu'il y a des questions particulières? Bon, j'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Délibération convention tripartite département communauté de communes commune pour l'ouverture de sentiers de randonnée. Je donne la parole à Lionel Barrault.
Bonsoir. La communauté de communes Ardèche Crosne-Coiron remet à jour. Ça marche pas. La communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron remet à jour les conventions de randonnée pour les PR, pour l'ensemble du territoire. Les conventions ont été signées il y a maintenant une quinzaine d'années. Malheureusement, avec les fusions et les déménagements, une partie des conventions n'a pas été retrouvée. De plus, certains propriétaires ont changé les conventions doivent donc être réactualisées. En parallèle, le service des sports du département exige de recevoir toutes les conventions pour fin 2021, afin de maintenir l'assurance actuellement en place sur les PR. Madame le maire apporte donc à la connaissance du conseil municipal le projet de convention quadripartite qui devra être signé entre le département de l'Ardèche, la communauté de communes Ardèche de Crosne-Coiron, la communauté de communes de Croise d'une part, avec les propriétaires privés de parcelles appartenant à un groupement de propriétaires en subdivision appelé BND. Situé sur le PR, sentier de petite randonnée, de la randonnée Cruas de 1000 ans d'histoire, avec la commune de Cruas qui est propriétaire des parcelles D96, D99, D98, D42, D76, D79, situé pour la randonnée de 1000 ans d'histoire sur Cruas, avec la commune de Cruas qui est propriétaire des parcelles AN125, AN126, AN123, AN124, AN120, AN122, AN121, D234, D233, D240, D239, D244, D241, D236, D235, D238, D237, D249, D245, D250 pour la randonnée La Forêt du Barès au départ de Saint-Vincent-de-Barès. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention pour l'ouverture au public des sentiers au sport de randonnée traversant les propriétés privées à intervenir entre le département de l'Ardèche, la communauté de communes Ardèche-Crosne-Coiron, la communauté de Cruas d'une part et les propriétaires concernés. Autorisez Madame le maire à signer les dites conventions à intervenir.
Alors très clairement, il y a une volonté de l'intercommunalité de nous accompagner, enfin au niveau des communes. Ils ont pris une stagiaire donc en alternance sur 3 mois pour travailler sur ce projet de convention, contacter les propriétaires et vraiment accompagner toutes les communes. C'est un boulot énorme. Donc on est ravis de ce dispositif. C'est Jessie, hein, la directrice de l'Office de tourisme, qui a travaillé aussi sur une partie de son temps à l'intercommunalité, qui a lancé donc... cette organisation et de réactiver justement ces conventions. En fait, ce qui aussi s'est passé, c'est que depuis 2020 avec le Covid, on se rend compte que le tourisme, ben forcément, est resté en local. Donc de plus en plus de gens utilisent les voies douces et les sentiers de randonnée. Du coup, en termes de responsabilité, c'est très important que l'on puisse se mettre à jour en termes de convention, parce qu'on passe chez des gens, des privés, et on n'a pas le droit. Donc il faut vraiment qu'on arrive à mettre à plat ces conventions tripartites, et notamment on est concerné au niveau de la commune. Nous aussi, on a des terrains qui nous concernent. Oui.
Juste un complément important par rapport à cette convention-là. L'intérêt pour les propriétaires privés de signer la convention, c'est que si un randonneur a un accident sur la parcelle, avec la convention, l'assurance est prise en charge par le département. Par contre, si le propriétaire privé n'a pas signé la convention, dès lors, c'est lui qui est responsable, qui peut encourir des problèmes avec l'accident qui s'est passé sur sa parcelle. Donc c'est aussi pour faire que les propriétaires se déchargent de leurs responsabilités sur le département dans le cadre du sentier de randonnée. Pardon.
S'il n'y a pas d'autres questions, j'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer aux questions de l'opposition, les questions diverses. Donc il y a deux questions. Je laisse la parole pour la première question, subvention aux associations, à Élodie.
Bonsoir à tous. Alors, subvention aux associations. Donc le 12 avril 2021 a eu lieu le vote du budget communal. À ce jour, nous n'avons toujours pas voté les subventions aux associations. Sur ce point, il y a une attente forte de ces associations afin de préparer la saison prochaine, d'autant plus que les activités reprennent petit à petit, ce dont nous pouvons nous réjouir. De ce fait, pouvez-vous nous préciser la date à laquelle vous comptez délibérer sur ces subventions ? Alors, consciente du rôle essentiel de nos associations dans la vie de notre commune, nous avons décidé cette année de modifier la procédure des demandes de subventions pour mieux cibler les besoins et les aides à apporter à chaque association. Il a fallu aussi tenir compte du contexte sanitaire actuel qui rend le travail de chaque association difficile. Aujourd'hui, ce travail est pratiquement fini. Nous en sommes au dernier arbitrage. Nous serons donc en mesure de présenter lors du prochain conseil municipal la délibération d'attribution des subventions.
La deuxième question, information des conseillers municipaux d'opposition. Je donne la parole à François Roubi.
Allô?
Oui, c'est bon.
Alors, information des conseillers municipaux d'opposition. Nous demandons à être informés, au même titre que les autres conseillers municipaux, des animations et des événements organisés par la municipalité. En effet, nous ne considérons pas les réseaux sociaux ou le site internet de la commune comme un vecteur d'information en direction des élus de l'opposition. Ces informations devrons donc faire parvenir par mail ou courrier. À la fête du port, le festival Art et Culture auront lieu en 2021. Plus largement, la fête du 14 juillet et la fête médiévale auront-elles lieu, la municipalité étant largement partie prenante. Concernant le droit à l'information des élus municipaux, le Code général des collectivités territoriales est clair. La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Donc, la municipalité est en droit de faire le choix de communiquer à l'ensemble des élus par l'intermédiaire de notre journal municipal, de notre site web et des réseaux sociaux. Concernant les manifestations que vous évoquez et qui sont organisées par des associations, à l'exception du Festival Art et Culture, le choix de les maintenir ou de les reporter ne dépend pas de nous. Ce sont bien les associations, au regard de la situation sanitaire et des contraintes consécutives, qui feront le choix de maintenir ces animations ou pas. Dans tous les cas, la municipalité respectera le choix des associations et restera à leur écoute. Concernant le festival Art et Culture prévu fin juin, il a été fait le choix de reporter, en concertation avec les artistes, Les spectacles programmés, vu les risques sanitaires, ne reprogrammeront pas ces spectacles dans les 6 prochains mois. Par contre, les 2 spectacles prévus en juin pour la fête de la musique sont reportés. Le vendredi 18 juin, la fête de la musique 2021 aura bien lieu, en plein air, entre 20h et 22h.
Merci François. Alors juste, nous reprogrammerons ces spectacles dans les 6 prochains mois. Tu avais dit négatif, mais c'est... voilà. Donc l'ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à... on va prendre le portable... 19h39. Merci à tous et bonne soirée.